Radio Classique avec David Abiker.
Il est 8h42 sur Radio Classique. Marc Lambron et Routel Krief sont avec nous ce matin. Merci d'être là aujourd'hui. Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Marc Lambron de l'Académie française, que vous retrouvez chaque matin à 7h20 sur Radio Classique pour bien parler le français. C'est aujourd'hui l'hommage aux victimes des massacres du 7 octobre. Certaines familles de victimes ne souhaitent pas que la France insoumise y soit représentée. La France insoumise ira quand même. Il faut, comme nous l'explique François Ruffin, accepter que les familles aient tous les droits. Que penser de cette polémique dans la commémoration et dans le recueillement ?
David, c'est un hommage. C'est un moment important, attendu par les familles. C'est l'hommage de la France à ses enfants. Essayons de ne pas nous faire parasiter par le cynisme, l'indécence de certains. Dans le fond, ce qui se passe avec cette polémique, même si c'est évident et clair, net, pour tout le monde d'ailleurs, je pense que LFI a été au-dessous de tout, qu'ils n'ont pas reconnu les actes terroristes, qu'ils ont eu des phrases très limites sur l'antisémitisme. Mais en fait, ils auraient réussi si on ne parlait que d'eux aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut parler des victimes. Il faut parler de leur amour pour la France, du fait qu'ils sont français, que les otages sont dans une situation terrible, que la responsabilité, malgré tout, de cette catastrophe revient au Hamas, qui a jeté à la fois des Israéliens, des Juifs dans le monde, dans l'effroi, qui a aussi jeté son propre peuple sous les bombes, en quelque sorte, sachant que la riposte serait terrible, que ce mouvement a une responsabilité devant l'histoire, et que nous, Français, aujourd'hui, on doit rendre cet hommage avec émotion, avec amour pour ces victimes, ces familles qui sont là, avec solidarité, et ne pas être dans la haine et dans la rancune par rapport à tous ceux qui viennent justement étaler ce cynisme et cette volonté de gâcher un hommage solennel qu'il faut garder solennel.
Marc Lambron, la République doit accueillir tous ceux qui veulent rendre hommage à ces victimes françaises des massacres du 7 octobre.
Oui, je le crois. Bon, c'est l'office du président que de rendre ces hommages. Souvenez-vous qu'en 2018, à Nice, il avait embarqué dans son avion les deux précédents présidents de la République pour l'hommage au massacre de 2017, ou Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. Alors, il y a aussi une petite polémique. Est-ce que c'est tôt ou est-ce que c'est tard? Moi, je pense que dans la mesure où il y a encore au moins 3 otages français, finalement, commémorer les morts, c'est aussi attirer l'attention sur les vivants, car l'affaire n'est pas close. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, si c'est l'hommage de la nation, tous les représentants de la nation, c'est-à-dire les élus, ils ont leur place, quoi qu'on en pense.
Y compris si les familles des victimes disent « on n'en veut pas ».
Ce ne sont pas les familles qui en jugent ou qui invitent. Et après tout, on pourrait aussi chercher noise au RN, eu égard à certaines racines antisémites de la génération précédente. Donc, voilà, je crois que chacun y aille, et surtout qu'il y ait, bah, comme le dit Ruth, en effet, une sorte de diversion latérale qui ferait de la présence de LFI le sujet principal, et c'est leur faire bien de l'honneur et bien du crédit.
Certains appellent aussi à un hommage dans l'autre camp aux victimes palestiniennes françaises ou franco-palestiniennes. Quelle est la forme que pourrait prendre cet hommage? Est-ce que là encore, on marche sur deux jambes entre Palestine, Israël?
Est-ce qu'il faut faire jouer la notion d'agresseur et d'agressé? Est-ce qu'on est dans une symétrie ou une asymétrie? Et il me semble qu'on a toujours été dans la symétrique, en l'espèce. Y compris d'ailleurs dans les libérations de prisonniers ou d'otages. Pour un Gilad Shalit, vous aviez 1000 Palestiniens libérés. Et là, pour en effet 1200 morts de ce pogrom, de cette Shoah par balle du 7 octobre, vous avez une riposte qui est implacable, parce que l'enjeu, c'est d'extirper précisément le Hamas. Mmh. Et que c'est autre chose que de tuer en une journée, fût-ce 1200 personnes.
Non, c'est vrai que faire le parallèle est très compliqué, que la France veuille rendre hommage, alors à ma connaissance à cette heure-ci, mais il doit y en avoir hélas d'autres, des franco-gazaouis qui ont péri sous les bombes, mais ceux dont on a parlé étaient des une femme connue parce qu'elle s'était engagée comme djihadiste en Syrie et ses enfants, mais c'est la responsabilité du président et du pouvoir français, c'est son choix, c'est pas, il y a rien à discuter là-dessus. Il faut juste préserver, encore une fois, l'importance de la journée d'aujourd'hui, penser aux otages qui restent détenus, penser aussi que le Hamas pourrait arrêter la guerre s'il rendait les otages. Comment est-ce que, lorsqu'on entend toutes ces voix dans le monde qui demandent le cessez-le-feu, qui accusent Israël, qui parlent de génocide, alors que la Cour internationale n'a pas parlé de génocide, a d'abord aussi demandé la libération des otages, mais qui a été très mal interprétée, sa décision a été extrêmement mal interprétée, mal comprise. Comment on n'entend pas les mêmes d'abord dire au Hamas de rendre les otages et d'arrêter aussi de tirer des roquettes, parce qu'il y a à peine une semaine, il y avait encore des roquettes sur Tel Aviv. Donc, les deux poids, deux mesures continuent. Depuis, même avant la riposte israélienne sur Gaza, il y avait déjà des infamies sur Israël et sur les Juifs dans le monde. Il y avait déjà l'inversion de la preuve, il y avait une forme d'accusation. C'est ça qui était absolument incroyable et qui a jeté tant de gens dans l'effroi, encore une fois, je vois pas d'autre mot. Donc, aujourd'hui, donnons à cette cérémonie, à ce moment, son importance, donnons sa gravité, respectons la douleur, respectons, apportons de la solidarité, de l'écoute. Ces familles qui sont venues, elles viennent parler aussi de leur amour pour la France. Elles viennent aussi parler de cette patrie française, des droits de l'homme, de ses valeurs. Et c'est ça qui est aussi aujourd'hui, qui peut essayer d'irradier un peu dans cette région si touchée. Essayons.
Alors évidemment, à côté de ça, la question du remaniement, des entrées et des sorties dans ce gouvernement semble dérisoire, mais nous devons la traiter. Je voudrais commencer par un chemin de croix, qui est celui d'Amélie Oudéa-Castéra. Ça me rappelle l'affaire de... Alors, sans comparaison, mais tout de même, l'affaire de l'appartement d'Hervé Guémard, c'était sous Chirac, il y a très longtemps. C'est pas dans le fond, mais sur la façon dont la presse s'empare d'un sujet, la politique s'empare d'un sujet, et on va presser le fruit jusqu'à la fin et mettre la victime, si j'ose dire, à genoux. Elle devra quitter le gouvernement, et les choses se seront faites de petites phrases en maladresse, de calculs politiques en victoire finale. Et finalement, la chose n'est réglée que par une cérémonie sacrificielle qui est la sortie du gouvernement.
Si vous voulez, je vais vous citer Sartre et Beauvoir, ça vous fera plaisir.
Ah bah oui,
bravo.
Ce matin. Bon, d'abord, premièrement, je pense qu'en effet, il y a une grande maladresse. Elle aurait dû dire, je mets les enfants dans le privé, et c'est mon choix. Deuxièmement, j'aime pas qu'on cherche à atteindre les politiques à travers l'inquisition sur leurs enfants. Troisièmement, il y a une sorte de curé, et c'est ce que Sartre appelait le groupe en fusion. Autrement dit, la loi de Lynch, quand on se met ensemble pour aller chercher une branche où l'on va lâcher ou pendre le bouc émissaire. Je cite Simone de Beauvoir, elle a parlé une fois de ce qu'elle appelait la chiennerie française. Eh bien, je crois qu'il y a une chiennerie française qui est en train de se déchaîner sur cette ministre. Alors après, je pense qu'il y a une erreur de Macron, parce que je m'explique mal le fait qu'en une année de Jeux Olympiques, on ajoute à ses fonctions de ministre des Sports la fonction de ministre de l'Éducation.
Qu'on lui double ses attributions, double charge de travail.
Oui, comme si c'était une annexe, ou comme si c'était une dépendance du ministre des Sports. Donc je pense qu'on va probablement vers une scission, si j'ose dire. Une hypothèse est qu'elle garde ou elle retrouve son ministère de plein exercice au sport, et que quelqu'un d'autre, mais qui, arrive à l'éducation.
Alors vous demandez qui? Alors certains supputent déjà que François Bayrou, qui a déjà été ministre de l'Éducation nationale et qui a su tenir ce ministère, revienne et reprenne les attributions de Madame Oudéa-Castéra. Que peut-on en penser aujourd'hui, sachant qu'en fait cette éviction de Madame Oudéa-Castéra est liée aussi à un débat entre Gabriel Attal et le chef de l'État, Ruth.
Oui, alors dans cette nomination de Madame Oudéa-Castéra, que je ne connais pas, il y a un peu le fait du prince, ça me gêne. Il y a une idée comme ça du président qui se dit qu'elle serait formidable. C'est possible, mais il y avait une erreur aussi à la base. Effectivement, un énorme portefeuille et peut-être pas assez de travail en amont pour vérifier qu'elle ne pourrait pas être attaquée et donc perdre sa crédibilité. À partir de là, s'obstiner est quelque chose qui est impossible aujourd'hui dans notre société de réseaux sociaux, et dans le fond, c'est normal parce que c'est tellement important aujourd'hui d'être ministre et c'est tellement important d'être efficace que si on est entravé, il vaut mieux se retirer. L'important, c'est l'action qu'on mène, c'est pas sa personne. Et pour le président, l'important, c'est le résultat de l'action de son gouvernement. Ça n'est pas qu'il ait raison contre les uns ou contre les autres, ou même contre son premier ministre. Vous voyez, tout ça est tellement dérisoire. Donc là, maintenant, ce que demandent les Français, c'est de l'action, des résultats, et qu'on avance. Ça n'a que trop duré. Les ministres ne sont que... Pardon, c'est terrible ce que je vais dire, mais ce sont des objets, en quelque sorte. Ce sont des instruments. Ils doivent appliquer, ils doivent exécuter, ils doivent organiser, ils ont plus ou moins de talent, ils ont plus ou moins d'aura, mais l'important c'est le travail, c'est ce qu'on leur demande. Donc s'il en arrive à ce qu'on personnalise trop, à ce qu'on sorte scandale sur scandale, on perd son efficacité, on doit sortir, point barre. Et tout ça ne doit pas être l'objet de discussion. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire à l'éducation, qu'est-ce qu'on va faire pour hausser le niveau de nos classes, pour que les enfants soient heureux et pas malheureux en classe, mais qu'ils apprennent et qu'ils grandissent bien. Enfin, c'est ça l'essentiel. Ça n'est pas ni madame ni monsieur.
Marc, il y avait confusion des matières parce que Tony Estanguet n'est pas au Collège de France. Donc, entre le sport et l'éducation, il n'y a pas tant de pont que cela. Pas toujours.
Bon. En même temps, ce qui arrive, ça rompt la dynamique qu'avait créée Gabriel Attal à partir du mois de septembre. Donc, ça remet en cause des chantiers qu'il avait lancés, des priorités qu'il avait données. L'arrivée de François Bayrou au ministère de l'Éducation nationale, si elle se concrétise, ça relance et ça redistribue encore les projets pour le ministère.
Il le retrouvera. C'est un fauteuil qu'il a déjà...
On va voir, parce que la discussion... Alors là, je vous passe les détails. Nous avons un François Bayrou qui est absolument sur un nuage, qui est totalement dopé par sa relaxe et qui souhaite tout, voilà. Et donc là, les discussions ont commencé depuis hier, elles se poursuivent. Voilà, on verra exactement point d'arrivée. Hein.
C'est bien quand un centriste est animé par sa testostérone. Il y a quand même une tonicité, là, un allégro particulier.
Alors, la quintessence du politique.
Puisque vous parlez de testostérone, on va évoquer le roi Charles et sa santé. Ça se passe
David.
Oui, je sais, mais ça se passe dans cette zone-là. Et mon Dieu, il n'y a pas de tabou quand on doit parler de cancer. Il y en a un dans la famille royale, c'est-à-dire qu'on est dans la demi-transparence ou la demi-opacité. Oui, alors... C'est un cancer, mais pas celui qu'on pensait, etc., etc.
Oui, c'est une demi-vérité, comme pour Kate Middleton d'ailleurs, c'est une opération de l'abdomen, on ne sait pas laquelle. Là, je vais vous citer Lacan, qui dirait « la vérité, on ne peut que la midire ». Parce que si on la dit totalement, ça peut être désobligeant ou violent. Alors, c'est assez intéressant cette affaire, parce que quels sont les rapports entre le pouvoir et le mensonge? Vous avez remarqué qu'à une époque, les chefs d'État n'étaient jamais malades. Georges Pompidou est mort, guéri certes, mais sans bulletin particulier. Mitterrand, il a fallu 7 ou 8 ans. Et il est bien connu que les gérontes du Kremlin, c'est-à-dire Brejnev, Andropov, Tchernienko, n'ont jamais été malades.
Et Staline travaillait toute la nuit
sans Staline. Même Poutine aujourd'hui, on ne sait rien, alors que peut-être...
Il y a un contre-exemple, parce que ça, ils n'ont pas pu contrôler, c'était Franco. Parce que Franco, l'agonie a duré pendant 3 ou 4 semaines, et il y avait des communiqués rassurants du Pardo, mais il y avait un petit malin qui avait dit... imitant ses communiqués. Ce matin, le généralissime a bien surmonté sa troisième autopsie. Bon. Charles III. Alors, il faut regarder un peu les générations, parce que son grand-père, Georges VI, est mort à 56 ans, sa mère à 96 ans, lui est malade à 75. Donc, ça invite à réfléchir sur ce qui est une tendance sociologique, c'est la longévité aujourd'hui des nonagénaires. Moi, je connais plein de nonagénaires toniques, et peut-être la moindre santé de leurs enfants, qui peut-être auront été exposés à plus d'agents polluants, ou peut-être à plus de stress. Et après tout, Kate Middleton n'a que 42 ans.
Juste un mot, c'est que peut-être que les Britanniques qui avaient toujours une relation un peu mitigée au l'ex-prince devenu roi vont finalement l'aimer dans la douleur et dans la souffrance.
Avec la compassion qu'il faut.
Du sang, de la sueur et des larmes, ils connaissent ça en Angleterre.
Je vous dis à la semaine prochaine, je vous propose de nous quitter avec le pianiste Alexandre Tarot. Il a reçu hier le trophée Radio Classique, le Grand Prix. Nous l'écoutons interpréter The Man I Love de George Gershwin. Merci Ruth et merci Marc. Et j'ajoute une précision, je vous ai dit tout à l'heure que Quentin Dupieux, le réalisateur de Dali, était belge. Non, il est né à Paris, tout simplement.
Oh, ben voilà.